L'invité.
Pour une médecine qui protège la vie et sa dignité depuis sa conception jusqu'à son terme naturel, l'association médicale Gabriel soutient la création de maisons médicales généralistes et pluridisciplinaires, dont le personnel de santé partage cette vision de la médecine. Elle a lancé un financement participatif pour aider à l'installation d'une première maison à Lyon l'an prochain, si tout va bien. Pour parler de ce projet, le docteur Jean-Jacques Canet est avec nous cette semaine. Bonjour.
Bonjour.
Docteur, vous êtes médecin généraliste à la retraite, à l'initiative du projet. Présentez-nous déjà peut-être un petit peu l'association médicale Gabriel, de quoi s'agit-il ?
L'association médicale Gabriel s'est créée autour d'un projet que nous avions d'aider des jeunes médecins généralistes à s'installer, car actuellement il y a de nombreux problèmes à cette installation et il nous est apparu nécessaire de nous retrouver quelques amis, pas forcément que des médecins, sages-femmes, personnel travaillant plutôt dans la finance, on pourrait dire, donc au courant un peu des problèmes administratifs, également cabinet d'avocats. Donc voilà, on s'est retrouvé autour d'une table et on a pensé qu'il valait mieux d'abord créer une association type loi 1901 qui, elle, viendrait en soutien de la création que nous voulions faire et qui aurait pour vocation, alors je vais vous donner tout de suite un peu l'intitulé exact. Donc l'association médicale Gabriel a pour vocation de soutenir la création de structures non lucratives, support de maisons médicales, dont le personnel de santé libéral partage une même vision de la médecine. Voilà, donc c'était le point de départ et un peu la conclusion aussi.
Et c'est quoi finalement cette vision de la médecine ? En quoi est-elle différente, j'ai envie de dire, de la vision de la médecine classique aujourd'hui, actuelle ?
C'est une très bonne question et effectivement, vision de la médecine, tout le monde pense que quand on va voir le médecin, c'est un homme dévoué, compétent, humain. En fait, il y a aussi derrière tout ça un être humain qui a besoin aussi de gagner sa vie. Et donc, qui est obligé d'exercer son métier dans une profession, par exemple médecin généraliste, qui est actuellement malmené par toutes sortes de choses, la société d'une façon générale, la façon dont on vit. Et puis également, il faut quand même, à la fin du mois, rentrer quelques sous pour pouvoir vivre décemment et correctement. Alors, on a toujours l'idée, effectivement, que le médecin, c'est notable, qu'il gagne très bien sa vie, etc. Alors, c'est vrai que, il ne faut pas négliger, il y a de nombreux spécialistes qui sont bien installés. Mais le médecin généraliste est un peu le parent pauvre et celui qui est le premier secours pour les familles. Alors voilà, donc première définition de la médecine que nous défendons en quelque sorte, c'est plutôt une médecine de famille. Le premier recours avec professionnalisation sérieuse, on fait notre travail sérieusement. Et donc une médecine humaine au sens, on prend les choses comme elles arrivent et on essaye de faire au mieux en fonction des possibilités que nous offrent les plateaux techniques, que sont les hôpitaux, etc. On essaye la médecine humaine. Pour nous, c'est respecter la vie, quelle qu'elle soit cabossée, pas cabossée. On fait ce qu'il y a à faire pour aider les gens, d'une part, les familles et chaque individu en particulier. Et je pense en particulier aux personnes handicapées. Alors, ça ne veut pas dire que les autres médecins ne s'en occupent pas, mais nous souhaitons porter attention davantage à cette catégorie de personnes, de familles aussi, familles touchées par le handicap. À titre personnel, j'ai un fils qui a 32 ans, qui est à la maison, qui est autiste. Je sais ce que c'est que d'être un aidant, comme on dit, vis-à-vis d'une personne atteinte de handicap, un handicap qui ne peut pas être diagnostiqué anténatal, donc on est obligé de faire avec. Et en même temps, on a découvert beaucoup de gens très dévoués dans cette branche en particulier, et on est très admiratif de tous ces jeunes en particulier, parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes éducateurs qui s'occupent donc de notre fils dans un centre. Donc nous, on voudrait s'inscrire dans cette filière, un peu le bon samaritain, en quelque sorte.
Pour vous, ce n'est pas bien sûr incompatible avec le serment d'Hippocrate que prêtent les médecins. C'est important d'allier les deux, de garder les deux en tête.
Oui, le serment d'Hippocrate est une base. C'est vrai que la médecine a évolué depuis Hippocrate. Certains mettent ça en avant en disant que oui, c'était bon de son temps. Mais enfin, pendant 2000 ans, voire plus, puisqu'il a été écrit quand même avant l'an zéro, eh bien, il a été le guide pour tous les médecins d'une façon générale dans leur comportement vis-à-vis des personnes que l'on côtoyait, blessées, et des familles, d'une attitude respectueuse des personnes autour de soi. Et c'est pour ça qu'on le met en avant dans son intégralité, parce qu'on considère que c'est une très bonne base qui permet aux médecins de se repérer quand il y a des situations difficiles.
Concrètement, par quel type d'action passe ce respect de la vie et de la dignité? Quelles peuvent être en tout cas les actions qui pourront être mises en place dans cette maison médicale?
Je rassure nos auditeurs, on ne va rien faire de plus que ce que font tous les médecins, c'est-à-dire soigner intégralement, porter soin, toutes les personnes qui se présentent, et nous ne dérogerons pas à ces règles. Simplement, notre vision va un petit peu plus loin, en quelque sorte, et qu'on ne veut pas laisser tomber les gens, voilà. C'est un peu comme quand il y a une marche et que nous sommes à plusieurs, eh bien, il y en a un qui traîne la patte, eh bien, nous, on sera celui qui aidera, celui qui traîne la patte à marcher. On préférera ne pas arriver le premier, mais arriver avec lui, voilà. C'est un petit peu le principe, c'est-à-dire que le bancal, le mal foutu, eh bien, on aura soin de lui, on sera là, à ses côtés. On perdra un peu de temps, on perdra même peut-être beaucoup de temps. Donc du coup, effectivement, le temps c'est de l'argent, comme on dit. Justement, nous, on essayera de mettre en place. Alors évidemment, il ne faut pas être idéaliste, il faut quand même bien vivre. Et donc l'idée, c'est de se retrouver à plusieurs, dans un premier temps des médecins généralistes, et puis donc un certain nombre de personnes qui ont été intéressées par notre projet, des sages-femmes en particulier, des infirmières, et pourquoi pas être en accord avec des associations d'aide à domicile qui s'occuperaient plus particulièrement de tel ou tel handicap, et qu'il puisse y avoir une synergie entre tous ces acteurs, bénévoles et non bénévoles bien sûr, pour que nous puissions aider tous ceux qui se présentent à nous.
Sur votre petit fascicule là, que j'ai sous les yeux, il parle d'une médecine à l'écoute des rythmes biologiques et naturels de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire?
Cette expression, c'est pour essentiellement introduire peut-être l'originalité de notre démarche, qui sera de proposer aux personnes qui en ont besoin, pas à toute personne bien entendu, des compléments en quelque sorte qui n'existent pas actuellement, qui ne sont pas proposés parce que mal connus ou non connus. Je parle en particulier de la naprotechnologie, c'est une discipline qui a vu le jour aux États-Unis depuis peu et qui arrive en France progressivement. Alors c'est un terme un peu barbare qui est une contraction d'un natural procreative technology, donc qui concerne effectivement essentiellement les couples et surtout les femmes, dans leur difficulté soit à concevoir, soit à ne pas concevoir. Et donc cette façon d'aborder les questions est beaucoup plus, comme on dit vulgairement, chronophage. Et donc une méthode a été mise au point avec un diplôme aux États-Unis donné par Fertilicare. Cette approche de ces problèmes-là sera prise en compte alors que ça ne l'est pas actuellement.
Alors on parle beaucoup là des besoins des patients, c'est normal, c'est pour eux que cette maison sera montée. J'imagine qu'il y a aussi des attentes, des besoins du côté des professionnels de santé dont vous faites encore partie, vous avez pratiqué plus de 20 ans la médecine. Quelles sont-elles finalement ces attentes des professionnels? Qu'est-ce que cette maison de santé pourrait apporter aussi aux professionnels qui vous rejoignent?
Toujours une très bonne question et qui méritera beaucoup de développement. La médecine générale est le point de départ un peu de notre affaire. C'est-à-dire que quand j'ai pris ma retraite, un peu avec la contrainte de mon fils handicapé également, je me suis retrouvé un peu démuni. Et ce qui me chagrinait le plus, c'est que j'avais pris la suite d'un médecin quand je me suis installé, et que ça faisait 3 générations qu'il y avait eu des médecins dans ce quartier de Lyon. Et que moi partant et ne trouvant pas de successeur, bien que de jeunes médecins m'aient contacté, mais ne voulant pas exercer comme j'exerçais, c'est-à-dire comme mes prédécesseurs, seul, dans mon appartement avec une partie réservée à la pratique médicale, ces médecins ne souhaitaient pas s'installer comme ça. Donc moi je me suis retrouvé un petit peu avec une impression de laisser un vide, et donc l'idée a germé d'aider à l'installation de jeunes médecins. Donc la médecine générale est au cœur un peu de l'actualité, puisque un ouvrage récent est sorti par le professeur Patrice Queneau et le docteur Claude de Bourguignon étant un médecin généraliste, ouvrage qui s'intitule « Sauver le médecin généraliste », On ne peut pas trouver meilleur titre actuellement, puisque on parle beaucoup de désertification, et donc, médecins ne voulant pas s'installer à la campagne, mais je suis prêt à parier que d'ici 10 ans, dans les grandes villes, il va y avoir des soucis. D'ailleurs, déjà maintenant, en région parisienne, on déplore une absence de médecins généralistes, en tout cas. Donc, vous voyez, sauver la médecine générale devient un élément important, et donc, il nous est apparu nécessaire de regrouper nos forces pour aider à l'installation de jeunes médecins généralistes. Et nous sommes aperçus, en travaillant au sein de l'association médicale Gabriel, que le problème n'était pas si simple à aborder. Si, quand je me suis installé, il suffisait de contacter un médecin qui partait à la retraite, de se mettre dans ses pas et de travailler immédiatement, ce qui m'est arrivé, ce n'est plus le cas actuellement. D'une part, la façon de travailler, enseigner en médecine, fait que travailler seul fait peur, ce que je comprends. Donc, regrouper dans les cabinets médicaux plusieurs praticiens semble plus rassurant. En même temps, les difficultés d'installation viennent du fait que un médecin, c'est un entrepreneur. Et un entrepreneur, actuellement, a besoin de locaux, a besoin d'un financement, a besoin d'un certain nombre de biens matériels. Et ceci ne se fait plus aussi facilement qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, cela nécessite une réflexion et nous sommes dit que nous pourrions, en nous regroupant au sein d'une association, apporter cette aide auprès de jeunes médecins pour les rassurer, d'une part, quant à la démarche qu'ils auront à faire de s'installer en médecine libérale, c'est-à-dire comme un artisan, finalement, pour être au plus proche des patients, parce que l'hôpital assure techniquement tout ce qu'il faut, mais humainement parlant, c'est loin, il faut y aller. On tombe dans l'inconnu, alors que quand même, le point de départ, c'est la médecine générale, c'est la médecine de famille. On connaît son médecin, le médecin connaît ses patients, donc il y a une confiance qui s'est installée. Alors on parle beaucoup maintenant d'alliance thérapeutique. C'est vrai que cette alliance thérapeutique, il faut mettre un mot sur les choses, mais ça correspond à ce que nous faisions, nous, naturellement. Le patient venait, il nous faisait confiance et nous, on était en toute conscience, on donnait le meilleur de nous-mêmes, et puis voilà. C'est ceci qui a un peu disparu, qui fait peur aux jeunes médecins, qui souhaitent ne plus exercer seuls. Et du coup, notre originalité, au-delà de l'offre complémentaire que nous pouvions apporter sur le plan santé, nous apportons, face aux enjeux sociétaux actuels, aux jeunes professionnels, une aide.
Les enjeux sociétaux, l'offre complémentaire, ça me permet de rebondir, puisqu'effectivement, il sera notamment sujet de fertilité, de soutien post-IVG, de grossesse, de handicap, des situations qui ne sont pas forcément toujours simples à aborder et qui font encore un peu débat aussi, aujourd'hui, dans la société française. On pourrait parler de fin de vie, on pourrait parler, bien sûr, de grossesse non désirée, on pourrait parler d'IVG. On a beaucoup parlé, par exemple, du délit d'entrave à l'IVG étendu au numérique. Est-ce qu'il y a des notions comme ça, des choses auxquelles cette première maison de santé va devoir gérer, des difficultés légales peut-être aussi, des points où il va falloir peut-être faire attention à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire? Comment vous appréhendez un peu ces choses-là?
Nous en avons beaucoup parlé entre nous, effectivement, ce n'est pas une question que nous avons ignorée, mais nous avons pensé que la meilleure façon de répondre à ce type d'interrogation était d'être très positif. Positif déjà dans un premier temps puisque nous sommes là. Comme vous le disiez, tout simplement, le syndrome post-IVG est absent des manuels d'enseignement de médecine, absent des discussions. Donc nous serons là. Nous ne serons pas des médecins super spécialisés ou des sages-femmes super spécialisées, mais nous serons là pour une écoute, déjà, dans un premier temps, et entendre ce que les patients ou les patientes ont à dire. Et ensuite, effectivement, notre idée, c'est de travailler en association avec d'autres personnes, membres d'associations, et nous pourrions guider, par exemple, je vous parlais de handicap, eh bien, on peut prendre exactement la même démarche, une personne ayant un enfant atteint d'un handicap, nous aurons à cœur de ne pas abandonner ces personnes en disant, comme personnellement je l'ai entendu de la part d'un médecin généraliste, « Ah, votre enfant est autiste, eh bien, je vous souhaite bon courage. » Et c'est la seule parole encourageante que j'ai reçue. Mais je comprenais très bien son désarroi face à cette pathologie, comme à d'autres pathologies que vous venez d'évoquer, qui sont ignorées par le médecin généraliste parce que n'ayant pas reçu peut-être une formation, effectivement, ne s'étant pas intéressé, il y a tellement de choses à faire, hein, c'est normal, mais en même temps, ne sachant pas aiguiller vers quelqu'un qui pourra, je vous dis, comme le bon samaritain, qui a fait quand même, j'ai essayé de retrouver, quelqu'un m'a dit 8 actions dans son geste. Il ne s'est pas contenté de donner 10 euros ou 20 euros à la quête, hein. Il a pris soin de la personne, non seulement le blessé, il l'a soigné, mais il l'a mis sur sa monture, il l'a amené à l'hôtellerie et il est revenu 3 jours après pour régler les frais d'hébergement. Voilà, c'est un peu la parabole du bon samaritain, ça s'appliquerait particulièrement à ce que nous envisageons comme action.
Et c'est une maison qui se veut ouverte à tous ? Concrètement, ça veut dire quoi? Que chacun pourra venir y trouver son médecin généraliste, peu importe sa confession, peu importe sa situation?
Tout à fait. Un médecin, par définition, soigne toute personne. Une personne qui m'était très proche, il y a longtemps, m'avait dit « Mais pourquoi tu as choisi médecine générale ?» Je lui ai dit « Bah, parce que ça me plaisait. » Et j'ai demandé à cette personne qui avait fait plutôt pharmacie pourquoi lui, il n'avait pas choisi médecine. Et ben, il dit « Parce qu'il faudrait soigner tout le monde. » Ça lui paraissait... très difficile pour lui, en tout cas, d'aborder le prochain, celui qui est là, à côté de vous, quel qu'il soit, peu importe sa confession, peu importe son origine, c'est un être humain. J'ai fait une formation pour ça, m'occuper des êtres humains, quels qu'ils soient, et je m'en occupe, donc c'est ouvert à tous. Nous, nous le voyons comme ça. Nous voyons un cabinet de médecine générale. Alors, il se trouve que des sages-femmes souhaitent s'installer avec nous. Donc, voilà, ce sera dans un premier temps une activité de médecine libérale, généraliste et de sages-femmes en libéral.
Alors, si on parle de ce projet, c'est bien sûr parce qu'il est nouveau et qu'il pourrait se monter, mais c'est aussi parce qu'un financement participatif a donc été lancé pour le financer, puisque j'imagine que les besoins sont assez colossaux. Comment nos auditeurs peuvent-ils vous aider aujourd'hui s'ils se sentent touchés, concernés par ce projet ?
C'est une très bonne question. Effectivement, nous avons bâti, grâce à une donation, dans un premier temps à des dons, que je profite de l'antenne pour remercier tous ceux qui ont participé aux dons au niveau de l'association Médicale Gabriel, nous a permis de financer un chef de projet sur un temps réduit, évidemment, mais qui nous a permis d'avancer dans nos démarches. Et en particulier, nous avons trouvé des locaux qui sont à aménager, pour lesquels, effectivement, l'association n'a pas actuellement les ressources suffisantes. Donc c'est pour ça que nous sommes entrés dans une certaine publicité de notre projet pour que vous puissiez nous aider à financer ce projet. Les sommes colossales ne sont pas si colossales que ça, pour une raison simple, c'est que nous sommes très méticuleux dans nos dépenses. Nous ne dépensons que ce qui est nécessaire. Et que nous sommes très vigilants ensemble au sein de cette association à ce que l'argent ne soit pas dépensé n'importe comment, car nous savons que ce sont des dons et que ces dons doivent être respectés en tant que tels. Donc nous avons effectivement besoin des fonds nécessaires pour aménager les locaux et ensuite assurer un peu le fonctionnement de cette maison dans les premiers mois, car on sait toujours que une activité qui démarre n'est pas rentable immédiatement et nous avons, grâce à un cabinet d'avocats, pu proposer à nos médecins, pour l'instant rien n'est signé, hein, mais nous proposons aux médecins un contrat d'association et un loyer en quelque sorte par rapport aux prestations qui sont fournies. Nous avons pensé qu'un appel aux dons serait nécessaire et de donner plus d'ampleur à nos besoins.
Où serait-elle située, cette maison, du coup, si le projet aboutit ?
Dans Lyon, dans le 3e arrondissement. Alors, n'ayant pas consulté tous mes collègues, je ne donnerai pas de lieu parce que pour l'instant, ça n'existe pas. Qu'en plus, deuxièmement, il n'est pas en principe en France autorisé de faire de la publicité pour un cabinet médical. Donc nous agissons en tant qu'association Médicale Gabriel qui a pour vocation de soutenir la création de structures médicales sous forme de maisons médicales pour un personnel de santé qui exercerait en mode libéral pour leur mettre les marches d'escalier. Nous avons besoin effectivement de fonds et nous remercions toute personne. Tout don, même modeste, viendra s'ajouter à ce précédent et nous rencontrons beaucoup de sympathie vis-à-vis de notre projet et nous sommes non pas étonnés mais agréablement surpris de voir le bon accueil que nous recevons auprès des différents partenaires que nous contactons.
Merci beaucoup, docteur Jean-Jacques Canet. On rappelle que vous êtes à l'initiative de ce projet de première maison médicale généraliste et pluridisciplinaire, avec une vision de la médecine qui respecte la vie et les vies, toutes les vies quelles qu'elles soient, qui, si tout va bien, pourrait s'installer à Lyon d'ici l'an prochain. Si vous aussi, vous avez envie de soutenir ce projet, n'hésitez pas à aller directement sur le site credofunding.fr. Merci.